Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La mère suffisamment bonne est un ouvrage de Donald W. Winnicott, pédiatre et psychanalyste britannique dont la pensée a profondément renouvelé la compréhension des premiers liens entre le nourrisson et son entourage. Le livre s'inscrit dans une perspective clinique et psychanalytique, attentive moins à l'application de règles éducatives qu'aux conditions ordinaires qui permettent à un enfant de se développer. Son titre renvoie à une idée centrale de Winnicott, le développement ne réclame pas une mère idéale, mais une présence initialement adaptée, fiable et progressivement moins ajustée aux besoins immédiats de l'enfant. Cette conception déplace le regard de la perfection parentale vers la qualité concrète de l'environnement de soins. Les textes réunis éclairent ainsi la dépendance précoce, la fonction de soutien assurée par l'entourage, l'acquisition graduelle de l'autonomie et les risques liés aux défaillances environnementales trop précoces ou trop durables. Il ne s'agit donc ni d'un guide de puériculture ni d'un manuel de prescription, mais d'une réflexion clinique sur la naissance de la vie psychique et du sentiment d'exister. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la formule « suffisamment bonne » récuse l'idéal d'une maternité parfaite. Le terme « suffisamment bonne » ne désigne ni une norme minimale ni une approbation de la négligence. Chez Winnicott, il décrit une adaptation vivante aux besoins très précoces du nourrisson. Adaptation qui n'est jamais totale et qui n'a pas à le devenir. Au début de la vie, l'enfant dépend radicalement des soins et de la continuité apportée par son entourage. Une réponse habituellement ajustée permet que ses tensions, ses rythmes corporels et ses états de détresse puissent être accueillis sans le désorganiser. Toutefois, une disponibilité parfaite serait elle aussi problématique, car elle empêcherait l'expérience graduelle de la séparation et du délai. La valeur de cette formule tient donc à son caractère dynamique. La personne qui prend soin de l'enfant répond d'abord de manière très proche de ses besoins, puis échoue de façon tolérable à les satisfaire immédiatement. Ces petits écarts deviennent assimilables lorsque l'environnement reste globalement sûr. Ils ouvrent un espace où l'enfant peut supporter l'attente, reconnaître une réalité extérieure et développer ses propres moyens de faire face. Le livre invite ainsi à distinguer les imperfections ordinaires, compatibles avec la croissance, des ruptures qui surviennent avant que l'enfant puisse les élaborer. Il libère également la réflexion sur la parentalité d'une culpabilité abstraite, sans banaliser l'importance décisive des soins précoces. Deuxièmement, le soutien environnemental fonde la continuité du sentiment d'exister. La pensée de Winnicott accorde une place décisive à ce qu'il nomme le « holding », terme qui renvoie au fait de porter, contenir et soutenir l'enfant au sens physique autant que psychique. Il ne faut pas réduire cette notion au seul geste de tenir un bébé dans les bras. Elle comprend la régularité des soins, la protection contre des stimulations excessives, l'attention au rythme ainsi que la manière dont l'adulte rend le monde suffisamment prévisible. Dans cette approche, le jeune enfant ne dispose pas encore des ressources nécessaires pour organiser seul ses expériences internes. Un environnement fiable lui évite d'être confronté trop brutalement à des intrusions ou à des absences qu'il ne peut comprendre. La fonction maternelle, entendue largement comme fonction de soins, aide alors le nourrisson à éprouver une continuité d'existence plutôt qu'une succession d'états de rupture. Cette perspective explique pourquoi Winnicott analyse les difficultés psychiques non seulement à partir des conflits internes, mais aussi à partir de la qualité de l'environnement précoce. Le propos ne consiste pas à attribuer mécaniquement toute souffrance ultérieure à la mère. Il montre plutôt que la maturité affective se construit dans une relation où la dépendance initiale est reconnue et suffisamment protégée. Le soutien apporté par l'entourage familial et social compte donc aussi, puisqu'il rend possible la disponibilité de la personne qui soigne principalement l'enfant. Troisièmement, l'échec progressif de l'adaptation prépare la découverte de la réalité extérieure. Un apport particulièrement précis de Winnicott consiste à montrer que le bon soin comporte un mouvement de désadaptation graduelle. Lorsque le nourrisson est très dépendant, l'adulte anticipe largement ses besoins et lui offre une expérience de continuité. À mesure que ses capacités psychiques et corporelles se renforcent, cette adaptation peut diminuer. L'enfant rencontre alors de petits manques, des délais et des résistances qui lui apprennent que le monde ne se plie pas entièrement à son désir. Cette rencontre avec la réalité n'est constructive que si elle reste proportionnée à ses possibilités du moment. Une frustration trop intense ou trop précoce ne devient pas automatiquement formatrice, elle peut être vécue comme une menace, faute d'un cadre suffisamment stable pour être intériorisée. Inversement, l'absence de toute frustration ne favorise pas l'individuation, car elle maintient l'illusion que le désir crée seul ce dont il a besoin. L'intérêt de cette analyse est de donner une logique relationnelle à l'autonomie. Celle-ci n'apparaît pas comme une indépendance conquise contre le lien, mais comme le résultat d'un lien assez sûr pour que l'enfant puisse tolérer la différence entre son attente et ce qui lui est offert. Le livre permet ainsi de penser le soin comme un ajustement temporel, où la qualité dépend du moment, de l'intensité et de la capacité de récupération après les inévitables ratés. Quatrièmement, la fiabilité des soins favorise l'émergence d'un vrai sentiment de soi. Les textes de Winnicott relient la qualité de l'environnement précoce à la possibilité pour l'enfant de se sentir réel et de développer une personnalité vécue comme sienne. Lorsqu'un entourage accueille suffisamment les gestes spontanés, les besoins et les rythmes du nourrisson, celui-ci peut progressivement faire l'expérience que son élan personnel trouve une place dans le monde. Cette expérience constitue un socle pour le développement d'un vrai self, expression qui désigne un sentiment de vitalité et d'authenticité plutôt qu'une identité figée. À l'inverse, si l'environnement impose trop tôt ses exigences ou répond de façon durablement inadéquate, l'enfant peut être conduit à se conformer pour préserver le lien. Winnicott décrit alors la constitution possible d'un faux self, organisation défensive centrée sur l'adaptation aux attentes d'autrui. Le concept ne doit pas être employé comme une étiquette diagnostique appliquée à toute politesse ou à toute capacité sociale. Il désigne une difficulté plus radicale, le risque que la conformité occupe la place de la spontanéité et que la personne éprouve peu son existence propre. Dans le cadre du livre, la mère suffisamment bonne importe, donc non, parce qu'elle fabriquerait une personnalité idéale, mais parce qu'elle offre les conditions où l'individu peut progressivement habiter ses expériences. Cette articulation entre soins précoces et sentiments de soi donne à l'ouvrage une portée clinique qui dépasse les débats simplifiés sur les méthodes éducatives. En dernier lieu, la relation précoce ouvre un espace pour jouer, symboliser et être seul. La réflexion sur la mère suffisamment bonne éclaire plusieurs notions majeures associées à Winnicott, notamment le jeu, les phénomènes transitionnels et la capacité à être seul. Elles ne doivent pas être comprises comme des séparées de la relation précoce. Le jeu devient possible lorsque l'enfant dispose d'une sécurité suffisante pour explorer une zone intermédiaire entre sa réalité interne et le monde partagé. Dans cette zone, il peut investir des objets, imaginer, créer et donner une forme symbolique à son expérience. L'objet transitionnel prend place dans ce processus, il n'est pas seulement un objet rassurant, mais le support d'une transition entre la dépendance initiale et une relation plus différenciée au monde. De même, la capacité à être seul ne signifie pas l'isolation ni l'autosuffisance. Elle repose paradoxalement sur l'expérience antérieure de pouvoir être seul en présence d'une personne fiable, sans avoir à mobiliser constamment son attention. Le livre aide à saisir l'unité de ces idées, un environnement qui ne fait ni défaut de manière traumatique ni intrusion de manière excessive permet la créativité psychique. Le jeu, la symbolisation et la solitude habitée deviennent alors des indices de maturation, non des performances à obtenir. Cette conception conserve une portée clinique importante, car elle invite à considérer les difficultés de jeu, de séparation ou d'authenticité dans leur rapport à l'histoire des relations de soutien. En conclusion, la mère suffisamment bonne s'adresse en priorité au lecteur qui souhaite comprendre la pensée de Winnicott à partir de son noyau clinique parent intéressé par une réflexion. Non normative, étudiant en psychologie, professionnel de la petite enfance, soignant et praticien attentif aux relations précoces. L'ouvrage demande de ne pas chercher des recettes immédiatement applicables. Son bénéfice pratique réside plutôt dans le changement de regard qu'il propose observer la dépendance de l'enfant, la continuité des soins. Il donne accès à une conception relationnelle du développement psychique, dans laquelle la subjectivité se forme grâce à un environnement humain assez fiable pour soutenir la spontanéité et assez imparfait pour introduire progressivement la réalité. Par rapport à de nombreux livres contemporains sur la parentalité, sa singularité tient à l'absence de programmes éducatifs standardisés. Winnicott ne mesure pas la qualité parentale à la conformité à des techniques, mais à l'ajustement vivant entre les besoins de l'enfant et les possibilités réelles de son entourage. Ce livre se distingue aussi par son ancrage dans les gestes ordinaires du soin et dans l'expérience concrète de la dépendance. Il reste une lecture exigeante par son vocabulaire clinique, mais précieuse pour penser sans idéaliser ni réduire la relation mère-enfant à une causalité simple. Si vous souhaitez soutenir Donald W. Winnicott, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.